La France fabrique des armes. La France exporte ses armes, principalement au Moyen-Orient. François Hollande et son gouvernement, plus que tout autre avant lui, a vendu des armes.
Vous avez été capable, grâce à vos performances, de nous permettre d'avoir des contrats à l'exportation qui n'ont jamais été aussi élevés ces dernières années.
La France est même devenue le troisième exportateur mondial d'armement. Pourtant, de ce fleuron industriel, de ses usines, de ses 165 000 salariés, nous ne savons rien.
Le 5 décembre dernier, le cinéma associatif L'Univers à Lille-Moulin accueillait un ciné-débat autour du film « Mon pays fabrique des armes », un documentaire d'Anne Poiret. Rencontre avec les deux intervenantes de la soirée après la projection.
Cécile, je suis militante en fait à Amnesty International au groupe de Lille depuis 2 ans.
Dominique, je suis militante comité de la paix de Villeneuve-d'Ascq depuis 2 ans.
Alors ce soir, on est réunis dans le cadre d'un ciné-débat ici au cinéma L'Univers autour d'un film et d'une campagne. Une campagne Silence en armes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la base de cette campagne ?
Là, c'est pour une campagne pour Amnesty International. En fait, pendant 2 ans, l'objectif, c'est de forcer la France à respecter ses engagements internationaux, parce qu'elle a ratifié des traités qui l'obligeaient normalement à ne pas vendre d'armes à des pays en guerre, à des pays qui commettaient des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, qui ne respectaient pas les droits humains ou les droits humanitaires. Or, on continue à vendre et à fournir et puis à maintenir des armes qui sont utilisées au Yémen et en Égypte contre la population.
Alors, la France fabrique des armes pour son armée et donc exporte une partie aussi de sa fabrication. Premier client ces dernières années, l'Égypte. Deuxième client, l'Arabie Saoudite, engagé, comme vous l'avez dit. Troisième client, c'est ça ? Troisième client, c'est l'Arabie Saoudite, engagé dans un conflit avec le Yémen. Ça veut dire que donc, les armes françaises servent à réprimer les opposants en Égypte, servent aussi à la guerre au Yémen, c'est ça ?
Alors, en fait, on a des preuves de l'utilisation de canons, chars, avions, hélicoptères, et bateaux sur le sol du Yémen et des bateaux pour le blocus du Yémen qui privent la population aussi. Non seulement elles privent les combattants d'armes, mais ils privent aussi la population des premiers secours et d'aide alimentaire. Et donc on a ces preuves-là. Après, on n'a pas de preuves que des armes françaises aient tué des civils au Yémen. Par contre, on a la preuve que des blindés français ont été utilisés pour réprimer des manifestations en Égypte. Et en fait, on a aussi vendu du matériel de surveillance à l'Égypte. Or, en Égypte, il y a des milliers d'opposants politiques, ou juste de syndicalistes, d'avocats, de journalistes qui sont en prison, qui ne sont pas jugés. Et certains sont en prison depuis des années. Et voilà, alors on dit qu'on accepte de le vendre dans le cadre de la guerre contre le terrorisme et pour protéger la frontière avec la Libye. L'Arabie Saoudite, on dit que les armes qu'on vend, c'est simplement pour utiliser pour la garde nationale d'Arabie Saoudite. Mais voilà, c'est pas le cas.
Tout simplement, comme il y a augmentation de la vente d'armes, il y a augmentation des conflits. Donc là, faire le rapprochement entre l'augmentation des morts dues à un armement peut-être français est normal.
En fait, chaque année, on fabrique dans le monde assez d'armes pour tuer 2 fois la population mondiale. Juste, voilà, je trouve que le chiffre, il est quand même pas mal. Je pense que ce n'est pas très utile, du coup, d'en fabriquer autant quand même.
Et pendant ce temps-là, on manque de médicaments. Cherchez l'erreur.
Alors, l'utilité sociale, si on en cherche une de la fabrication d'armes, c'est de fabriquer des emplois. Il y a une forme de chantage à l'emploi qui est exercée dans la sphère politique. Ça représente environ 160 000 emplois en France, peut-être un peu plus dans quelques années. Et puis aussi, ça équilibre une balance commerciale largement déficitaire. Alors comment vous voyez ça, cet argument?
Mais on peut toujours relativiser en disant que, par exemple, pour les emplois, en réalité, l'exportation, c'est 40 000 emplois, que même les 160 000 emplois, ça représente 10% des emplois dans l'industrie en France, que on pourrait développer à la place le luxe, je sais pas, le textile, enfin des tas d'autres emplois. En fait, on pourrait développer d'autres industries plutôt que
la pharmacie. 6 millions de chômeurs et, parce que je me trompe toujours dans les chiffres, 200 000 emplois dans l'industrie militaire. Donc peut-être que si on parle que du peuple français, il a peut-être plus besoin de s'habiller correctement, d'avoir des médicaments qui puissent le soigner, plutôt que de l'armement qui tue. La question première, c'était le social. Non, il n'y a pas du tout de social dans la vente d'armes. C'est complètement hypocrite. C'est fou.
Autre contre-argument utilisé, notamment, là c'était Michel Alliot-Marie hein, qui l'utilisait, cet argument, si ce n'est pas nous qui vendons, si ce n'est pas la France qui vend des armes, d'autres le feront et le feront d'une manière encore moins éthique que peut la faire la France. Comment vous voyez cet argument?
Déjà, ils ne le feront pas forcément de manière moins éthique, mais surtout, en fait, le problème, ça reste quand même que l'État français s'est quand même engagé, a quand même ratifié le traité sur le commerce des armes et la position commune à l'Union européenne. Donc elle s'est engagée à ne pas vendre à des pays qui pouvaient les utiliser contre sa population, contre des populations étrangères. Or, on ne la respecte pas. Donc dans ce cas, il ne fallait pas s'engager. Oui, après, c'est un secteur concurrentiel, effectivement. Si on ne vend pas les armes, c'est peut-être les États-Unis qui les vendront. Mais bon, en fait, c'est sans fin. Ceci dit, l'Égypte est maintenant notre premier client parce que les États-Unis... On met un embargo sur les ventes d'armes à l'Égypte après la répression de l'été 2013. Voilà. Donc il y en a qui sont capables de prendre des décisions politiques. La France aussi, d'ailleurs, a déjà refusé des licences d'exportation. Par exemple, là, elle les a bloquées pour la Turquie, mais la Turquie, c'est un petit client. Mais en fait, en gros, c'est l'équilibre entre l'image politique et puis et l'économie à trouver. Mais voilà, en fait... C'est juste ça, c'est juste on a signé des engagements et on doit les respecter en fait. Et puis il y a aussi un danger pour nous, parce que ça on n'en parle pas non plus, mais c'est pas forcément des pays très stables. Et en fait cet armement il peut aussi se retourner contre nous, ou on sait pas dans quelles mains en fait ça peut se terminer. Par exemple dans la guerre au Sahel, il y a énormément d'armes qui circulent, c'est des armes qui peuvent circuler, qui peuvent tomber entre les mains des groupes terroristes qu'on combat, pour lesquels on officiellement on fabrique les armes.
Jean-Charles Larsonneur est un nouveau député de La République En Marche, très actif. C'est un ancien du Quai d'Orsay. Surtout, il siège à la Commission Défense, où il suit notamment l'équipement des forces françaises et a donc rencontré de nombreux industriels depuis son élection.
Extrait sonore du film « Mon pays fabrique des armes », documentaire d'Anne Poiret.
Expliquez-moi ce que c'est ce rapport, en quoi ça consiste en fait.
Eh bien, on va voir le montant des exportations, on va voir le type de matériel. Est-ce que c'est des matériels véhicules blindés, frégates? Quel est le nombre de licences qui ont été accordées? Ou plutôt petits armements? Quels sont les ministères en charge? Les différents types de matériel de guerre qui sont présentés dans le rapport.
Qu'est-ce qu'on apprend sur ce qu'on vend, par exemple, en particulier, je crois que l'Arabie Saoudite reste notre deuxième client?
Alors là, il faudrait vraiment que je regarde précisément. On va regarder un petit peu parce que.
Ouais, prenez.
Alors, Arabie Saoudite. Ok, ça c'est la catégorie. Est-ce qu'on va avoir notre rapport? C'est la première fois que je le regarde, alors c'est pas un exercice très facile. Hein.
Alors pourquoi c'est la première fois que vous le regardez?
Pourquoi c'est la première fois? Là, c'est. Franchement. On va pas le faire comme ça, quoi.
Mais vous nous avez expliqué que tout à l'heure, vous êtes occupé par autre chose, c'est ça?
Ouais.
Vous vous concentrez sur...
Mais non, enfin, je veux bien qu'on arrête si ça vous dérange pas.
On ne peut pas dire que l'État ne contrôle rien. Il y a des mécanismes de contrôle aussi. Mais il y en a qui font un petit peu peur. Parce que, par exemple, dans le film, on voit donc le parlementaire qui est censé contrôler un petit peu ce qui se passe. Lui n'a pas ouvert le dossier. C'est un moment un peu affligeant là, dans le documentaire. Comment vous voyez ça? Vous, justement, votre boulot, enfin, le thème de la campagne, c'est qu'il y a des filtres plus importants et d'impliquer les députés de manière plus importante dans ce contrôle ?
C'est déjà demandé à ce que les rapports qui sont fournis au Parlement en France tous les ans et au secrétariat du traité du commerce des armes, en fait, soient plus précis pour que la population, pour que les citoyens soient informés, qu'ils puissent exercer leur pouvoir. Voilà, parce qu'on est quand même dans une démocratie. Donc, et puis qu'effectivement, les députés... en fait, cette omerta dont on parle dans le documentaire, en fait, c'est que les députés, ils n'osent pas forcément en France poser des questions. Ils n'osent pas demander la levée du secret défense sur certains dossiers, alors qu'ils ont, en fait, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de poser des questions à l'exécutif. Il y a quand même une commission interministérielle, normalement, qui donne son accord ou non. Enfin, qui a ceci dit juste un avis consultatif. Alors ça, c'est aussi le problème, c'est qu'au final, c'est l'exécutif qui signe les bons de livraison, quoi, en gros.
C'est un député en marche, donc on peut comprendre.
Ah, mais juste, il y a aussi un autre député en marche qui, lui, a demandé la création d'une commission d'enquête sur les exportations d'armes par la France au Yémen. Autour de lui, il y avait une vingtaine de députés. Alors ça fait pas beaucoup sur le nombre de députés... total, mais voilà, c'est déjà ça. Et du coup, il y a c'est simplement une mission d'information qui a été créée. Mais pareil, on peut espérer que c'est déjà un premier pas. Alors du coup, il n'est plus en marche, hein, il se fait virer.
Alors, dernière question, si les citoyens qui nous écoutent veulent agir à leur niveau, il y a quel moyen d'action ? Une pétition déjà, on peut en parler aussi ?
Oui, il y a une pétition. On peut aussi justement interroger nos députés, voilà, les mettre devant leurs obligations aussi. Et puis il y a différentes manifestations. Après, on peut aussi, je pense, travailler avec les équipes qui justement essayent de vérifier les informations à propos des armes. C'est ça, surtout interpeller les députés, je pense, et signer la pétition, mais surtout interpeller les députés, en fait, pour qu'ils fassent leur travail, quoi.
Sur le site du Mouvement de la Paix, j'ai signé une pétition à envoyer à notre député ou à un député. Et donc, et le député en question m'a répondu, d'ailleurs, sur la non-prolifération donc des armes nucléaires.
Il y a aussi après des actions citoyennes. Par exemple, au port du Havre, en fait, il y a des dockers... des syndicalistes et des élus qui ont bloqué le chargement d'armes qui était en partance pour l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on voit quand même... Bon, du coup, ils se sont fait livrer dans le pays voisin, mais il y a quand même des actions qui peuvent être menées par des citoyens.
Il y a une vraie crainte dans l'appareil d'État qu'on retrouve des armes françaises, qu'il y ait un élément de preuve, des photos notamment, sur le site d'un crime de guerre au Yémen. C'est quelque chose de très grave de violer un engagement international. Mais personne ne vous parlera en in. Il y a une omerta totale au sein de l'administration. Encore plus maintenant que Jean-Yves Le Drian est à la tête du Quai d'Orsay.
Extrait du documentaire « Mon pays fabrique des armes » signé Anne Poiret. On a entendu au cours de ce sujet un entretien avec Cécile, militante au groupe de Lille d'Amnesty International, et Dominique, militante au comité pour la paix de Villeneuve-d'Ascq. On les a rencontrés le 5 décembre dernier à l'occasion d'un ciné-débat au cinéma associatif L'Univers à Lille-Moulin, projection organisée dans le cadre de la campagne « Silence, on arme ».